Le journal, présenté par Hugo Charpentier.
Bonjour à tous. Les États-Unis en deuil ce matin. Le pays a vécu hier sa 249e tuerie de masse depuis le début de l'année. Bilan 20 morts, 26 blessés dans un supermarché d'El Paso au sud du Texas. Le tireur a été interpellé. La police évoque un possible motif raciste. À Hong Kong, les militants pro-démocratie ne relâchent pas la pression. Après des violences hier, des nouvelles manifestations aujourd'hui, les menaces de Pékin ne semblent pas pouvoir freiner le mouvement. Entre recueillement et tension, journée contrastée hier à Nantes lors des rassemblements en hommage à Steve Canisso. Quelques affrontements l'après-midi avec les forces de l'ordre. À Paris aussi, plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées pour dénoncer les violences policières. Et puis il a réussi son pari. Franky Zapata est arrivé il y a quelques minutes sur les côtes anglaises. Le Français réussit la première traversée de la Manche en flyboard, la machine volante qu'il a lui-même fabriquée. Un véritable exploit pour cet inventeur qui n'a décidément pas froid aux yeux. À El Paso, au Texas, un homme de 21 ans se trouve donc ce matin dans les locaux de la police. Il est le suspect de la fusillade qui a fait 20 morts et au moins 26 blessés hier matin dans cette grande ville frontalière du Mexique. La tuerie a été perpétrée dans un centre commercial prisé par la communauté hispanique. La haine raciste, voilà ce qui aurait poussé ce jeune homme au crime, Loïc Piala.
Cette fusillade n'est pas seulement tragique, c'est un acte de lâcheté, a commenté Donald Trump sur Twitter. Rien ne justifiera ou n'excusera jamais le meurtre d'innocents, a poursuivi le président américain. Mais les médias s'intéressent à un manifeste qu'aurait publié en ligne le suspect de la tuerie. 2300 mots qui critiquent les immigrés et les latinos coupables, selon lui, de voler les emplois des Américains. Des propos pas très éloignés de ceux que tient régulièrement le pensionnaire de la Maison Blanche. Notre pays est sous la menace d'un terrorisme de nationalistes blancs, aidé par des lois laxistes sur le port d'armes, a quant à lui déclaré Pete Buttigieg, l'un des principaux candidats à la primaire démocrate pour 2020. Le port d'armes pourrait bien une fois encore animer la prochaine campagne présidentielle. Les défenseurs du deuxième amendement aux États-Unis avancent souvent qu'un gentil avec une arme est la meilleure réponse à un méchant avec une arme. Le Texas est l'un des États les plus permissifs du pays sur le sujet. Hier, personne n'a été capable d'arrêter le tireur présumé.
Et comme après chaque bain de sang aux États-Unis, on vient de l'entendre, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer une meilleure régulation du marché des armes à feu. Il est grand temps d'agir et de mettre un terme à cette épidémie de violence liée aux armes, demande de son côté Joe Biden, le favori de la course à la primaire démocrate. La mobilisation des Hongkongais hier a une nouvelle fois été émaillée par des débordements marqués par de nombreux tirs de gaz lacrymogène lancés par les forces de l'ordre pour disperser la foule. Des militants pro-démocratie plus que jamais décidés à faire vaciller le pouvoir local jugé trop proche de Pékin. Tout au long de la journée, c'est la solidarité et l'unité qui a primé dans le cortège. À Hong Kong, le reportage de Zifan Liu.
La journée avait commencé dans une ambiance festive et familiale avec plusieurs dizaines de milliers de manifestants qui ont une nouvelle fois exprimé leur souhait de démocratie dans l'archipel à l'image de ce jeune participant qui tente de garder son optimisme.
Je n'arrive pas à m'imaginer le futur, je fais juste ce que je peux. Beaucoup de personnes se sont suicidées et je ne veux pas les décevoir. Je veux aider les autres à réaliser ce rêve. Je pense qu'en ce moment, Hong Kong n'a jamais été aussi uni. Tout le monde fait de son mieux et espère que Hong Kong ira mieux.
And hoping Hong Kong will be better. Le long des rues désertes et fermées à la circulation, quelques boutiques qui n'avaient pas baissé pavillon disposaient des bouteilles d'eau gratuitement pour ravitailler les manifestants. Dans le cortège, certains relayaient les donations.
On met du matériel à disposition des protestataires qui vont sur la ligne de front, car on a compris que certains n'ont pas d'argent pour s'offrir un repas. Ils mettent tout leur argent pour s'acheter d'abord des équipements pour se battre contre le gouvernement. Et c'est pour ça qu'on essaie aussi de leur donner de l'eau ou de la nourriture pour les aider.
Comme de coutume, désormais, la soirée s'est terminée au milieu des gaz lacrymogènes lancés par les forces de l'ordre avant une nouvelle journée de manifestation prévue aujourd'hui.
Et aujourd'hui, ce sont donc deux nouvelles marches de contestation qui sont programmées. Et puis demain, jour de grève générale, événement rarissime à Hong Kong, mais qui devrait être largement suivi. Une nouvelle manifestation de l'opposition réprimée, cette fois-ci à Moscou. Plus de 300 personnes, dont 6 journalistes, ont été interpellées hier dans les rues de la capitale russe. Une mobilisation toujours pour réclamer l'ouverture des élections locales de septembre aux candidats de l'opposition. Ces arrestations font suite à une autre action de protestation réprimée le week-end dernier avec près de 1400 arrestations. Au Soudan, après plusieurs mois de tensions et de violences, le pays retrouve un peu de calme et de sérénité. Et ce, grâce à un accord conclu hier entre l'armée et la contestation populaire. Les deux camps se sont entendus pour la signature d'une déclaration constitutionnelle qui prévoit de remettre le pouvoir aux civils. C'était la principale revendication du mouvement d'opposition, Nabila Hamel.
Dès l'annonce de cet accord, hier, c'était en tout cas la liesse illustrée par des concerts de klaxons pour les plus enthousiastes, le soulagement pour ceux qui disaient ne pas vouloir manifester indéfiniment mais chercher à trouver un juste milieu entre les deux camps, et enfin des interrogations pour ceux qui espèrent que cela ne se fera pas au détriment des 250 morts victimes de la répression depuis le début de la révolte. Elle a été déclenchée par le triplement du prix du pain le 19 décembre pour devenir ensuite un mouvement de contestation du pouvoir, pouvoir incarné pendant 30 ans par le président Omar el-Bashir. Les manifestations quotidiennes ont été d'une telle ampleur qu'elles ont entraîné le 11 avril la destitution et l'arrestation par les militaires du président soudanais. Si le départ du président Omar el-Bashir était la première revendication des manifestants, s'ils savent également que son jugement est prévu à partir du 17 août, la reprise en main du pays par un conseil militaire n'était pas ce qu'ils attendaient, et c'est toute la question du transfert du pouvoir aux civils qui était donc au centre des négociations entre prise avec le mouvement de contestation. Un premier accord, début juillet, porté sur la création d'un conseil souverain composé de 5 militaires et 6 civils chargés de mener la transition pendant un peu plus de 3 ans. L'accord d'hier est plus complet. Il porte sur des questions sensibles, sur la sécurité par exemple, l'indépendance de la justice, sur les pouvoirs du gouvernement et ceux du conseil souverain.
Explication signée Nabila Hamel pour France Culture. Une marche silencieuse le matin, des cris de colère et des violences l'après-midi. Il y avait deux mondes hier à Nantes pour rendre hommage à Steve Canisso, ce jeune homme emporté par la Loire après une charge de la police controversée. Une quarantaine de personnes ont été interpellées dans le centre-ville de Nantes après ces débordements. Dans les autres villes du pays, les marches blanches se sont déroulées plutôt dans le calme. À Paris, entre 2 et 3 000 manifestants se sont rassemblés. Une mobilisation initiée par les Gilets jaunes, Sarah Tucherer.
Qui a tué Steve? La question est posée sur la banderole en tête de cortège. Pour les manifestants, la réponse ne fait pas de doute. La police, en général, est coupable. Louise, professeure des écoles, ne lui fait plus confiance.
Alors, vous savez, moi, j'ai toujours été élevée dans le respect des forces de l'ordre, de la justice. Voilà, je fais partie de la classe moyenne. C'est proche de zéro, maintenant, mon respect envers eux. Maintenant, je ne me sens plus en sécurité quand il y a un policier à côté de moi.
Sur le parcours, des manifestants s'approchent des forces de l'ordre en lançant des slogans très hostiles. On en reste au stade de l'invective. Isabelle aurait préféré plus de dignité.
Je suis venue vraiment pour honorer la mémoire de Steve. Par contre, là, ça dégénère et je comprends pas.
Vous auriez voulu une manifestation silencieuse, peut-être sans...
Un hommage. S'ils ont envie de se prendre la tête, qu'ils se la prennent, mais plus loin, plus tard, ailleurs que pour Steve.
Pour ce 38e samedi de mobilisation, les Gilets jaunes ont rassemblé plus de monde que ces dernières semaines. Alex y voit un encouragement pour la suite.
Depuis le début, moi, je suis gilet jaune. Là, les vacances commencent à approcher. Je me suis dit, bon, je vais me calmer un petit peu. Qu'est-ce que j'apprends? Un gamin est en train de faire une fête. On arrive, on le pousse dans un fleuve. Mais j'ai dit non, allez, Alex, faut que tu bouges. Et là, on est là.
Les gilets jaunes promettent de poursuivre leur mobilisation avec un mot d'ordre élargi à la question des violences policières.
Sarah Tucherer. Cette fois-ci, c'était la bonne. Quelques jours après une première tentative qui s'est soldée par un échec, l'homme volant, Frankie Zapata, a réussi ce matin à rejoindre l'Angleterre. Debout sur sa planche, en flyboard, comme on dit le français, s'est envolé depuis une plage de Sangatte dans le Pas-de-Calais avant de se poser en Angleterre à Sainte Margaret Bay. Zapata s'inscrit désormais dans une longue lignée d'aventuriers qui, avant lui, se sont eux aussi lancés à l'assaut de la mer qui sépare la France et l'Angleterre. Tour d'horizon avec vous, Rosalie Lafarge.
Il y a ceux qui l'attendent par les airs, la traversée de la Manche. Dès 1785, le français Jean-Pierre Blanchard et son mécène américain John Jeffries décollent du château de Douvres à bord de leur montgolfière. Le ballon, gonflé à l'hydrogène, les dépose sur les côtes françaises un peu moins de 3 heures plus tard. 120 ans après, Louis Blériot mettra 4 fois moins de temps à faire le voyage en sens inverse à bord de son avion, 37 minutes pour rejoindre Douvres depuis Calais. En 1988, Yves Marre, un inventeur français, traverse avec son propulsar, un parapente à moteur de sa fabrication. L'Autrichien Félix Baumgartner parvient lui en 2003 à passer d'une côte à l'autre à 200 km/h en chute libre équipé d'un aileron en carbone. D'autres préfèrent se mouiller un peu. Matthew Webb, capitaine de la marine marchande britannique, réussit la première traversée à la nage en 1875, exploit maintes fois renouvelé depuis, mais l'histoire retiendra notamment Philippe Croizon, amputé des 4 membres qui domptent la Manche en 13 heures en 2010. Et puis à côté de ceux qui traversent dans l'eau, il y a ceux qui traversent sur l'eau. 1959, le britannique Peter Lamb prend les commandes d'un monoplace aéroglisseur, un engin qui glisse sur un coussin d'air au-dessus des flots. La Manche sera aussi traversée en monoplace ski, en kayak, en pédalo ou encore, pour le Vénitien Vittorio Rio, en gondole.
Rosalie Lafarge et toutes ses folles traversées sont à découvrir ou redécouvrir sur franceculture.fr. La météo aujourd'hui, une très belle journée qui s'annonce, du soleil partout côté température. Ça va aller de 19 degrés pour la minimale sur la pointe bretonne et en Normandie et jusqu'à 35 degrés à Avignon.